Et quels ont été tes défis? Donc attends, tes défis c'était quoi?
Moi,
oser.
Ouais, oser. L'audace.
L'audace.
Voilà.
Ok.
Deux gros défis pour moi. Alors après, au grand désarroi de ma mère et mon père, je suis une vraie tête brûlée en fait.
Wow.
C'est-à-dire que dès que j'ai décidé que j'allais dans cette direction, je vais dans cette direction. Maman dit, il y a un mur, c'est pas grave, je l'ai vu, je vais prendre mon mur, laisse-moi prendre mon mur. Très compliqué pour elle. Mais donc généralement, j'ai mon entourage qui regarde. Qui attend de voir à quel moment, s'il va y avoir une chute, s'il va passer le mur ou quoi. Donc mes deux gros défis, le premier ça a été l'auto-édition.
D'accord.
Donc je ne savais pas d'édition ou pas. Le premier contrat que j'ai reçu, j'ai fait hop, machine arrière. En fait,
pourquoi
c'est, ils sont là pour traire la vache.
Ah oui.
Ah mais ça c'est que du business. Ah,
ouais, donc j'ai dit non, si c'est pour ça, bah, autant le faire moi-même. Et là ma mère elle a dit ça y est, il va dans le mur. Donc je suis parti sur mon cheval, effectivement, bah, découvrir l'auto-édition, mais qu'est-ce que c'est que cette machine, comment ça fonctionne. Amazon, ok, mais Amazon pour commander un téléphone, un chargeur, je veux bien, mais pour publier son livre, contacter les gens, avoir ses lecteurs, comment les rencontrer, qu'est-ce qu'une séance de dédicace, en fait, l'auto-édition, tout ce que l'éditeur est censé faire, la partie com, la partie promotion, bah, on apprend à le faire. Et ça, par contre, ça a été très très dur. Ça a été très compliqué parce que c'est très chronophage. Même si les solutions sont très abordables maintenant sur Internet en termes de conseils, d'organisation et de méthodes, mais c'est hyper chronophage.
Attends, la production du livre
La production, la promotion, les dédicaces, les faire vivre en fait, une fois que le livre est fait, le faire vivre.
Ah oui.
Et mon deuxième gros défi, c'est le métissage.
C'est-à-dire
que c'est un sujet qui me tient quand même à cœur. Donc mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis métisse, d'accord. Mais bon, c'est compliqué parce qu'à certains moments, je suis catalogué blanc. Il y a catalogué blanc, il y a des moments où je suis catalogué noir.
Mais ça c'est de la politique ça.
Oh, c'est de la politique, c'est de la vie tous les jours, c'est des relations entre lycéens, entre collégiens, entre professionnels. Voilà, j'ai un rapport avec le métissage qui est très, très intense. Et je me retrouve à vouloir écrire une œuvre d'heroic fantasy tirée majoritairement d'une littérature anglo-saxonne. Mm-hmm. Et j'ai envie d'y intégrer ma culture antillaise dedans.
Mais c'est pas le problème.
Non, il n'y a pas de problème.
C'est ça qui rend compte.
C'est comment le faire sans que ce soit télégraphié. C'est ça qui a été compliqué pour moi. Il faut que ça soit. Il faut pas que j'ai placé un élément dans l'histoire pour dire hey, et l'autre, je suis antillais, donc je fais ça là.
Il faut pas que ça.
Que ce soit l'objectif.
Des choses, voilà. Ça sert à rien.
Voilà. Moi, je veux que ce soit.
Il faut que c'est un sens.
Il faut que ce soit naturel. Là. Par exemple, j'ai une ascension d'un volcan qui n'est pas nommé la Soufrière, mais je veux que ça y ressemble. Donc, j'ai pris mon sac, mes baskets. J'ai fait une ascension de la Soufrière histoire de me remémorer tout ça. Voilà. Toute la description, c'est celle de la Soufrière. Ouais. J'ai envie d'y mettre ce qu'on mange, comment on le vit. Au détour d'un bivouac pour récupérer un petit peu dans un saladier, il y a une pomme malaka qui traîne et on la décrit, on la goûte, on a la texture, on a le jus, on a l'odeur, le sucre. Voilà, c'est comme ça que moi je veux le mettre.
Non mais c'est de façon plus subtile.
C'est ça, ouais. Moi je veux que ce soit doux. Parce qu'un bon métissage, c'est un bon mélange des deux.
Ouais.
Faut qu'il y ait un mélange des deux. Donc ça se met en place progressivement dans le tome 1 et dans le tome 2, on aura vraiment ce mélange qui sera unifié.
Tropicaliser la fantaisie.
Alors je ne veux pas tropicaliser la fantaisie, je veux la faire cohabiter avec notre culture. Oui. C'est ce qui m'intéresse.
Mais tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre, je crois qu'elle s'appelle Duflo. Elle fait aussi de la fantaisie.
Ouais. L'heroic fantasy?
Ouais.
Ah, ce serait intéressant de la rencontrer.
Les aéroports, les grandes villes. Mais enfin, moi je ne fais pas de fantaisie, donc je vais me taire sur ce sujet-là. Mais moi, je vois pas de problème. Et je vais vous dire pourquoi je vois pas de problème. Je vois pas de problème parce que on ne dit, on ne fait, on n'écrit que ce qu'on est.
C'est ça.
Moi, je ne peux parler que de... Même si je parle de gens qui ne sont pas moi, c'est ma sensibilité qui parle. Et donc, forcément, il y a une partie de moi à travers ces personnages, même s'ils sont africains, même s'ils sont américains, même s'ils sont français, même s'ils sont des Antilles. C'est moi, l'auteur. Donc, quelque part, c'est mon ressenti qui informe toutes mes histoires. Tu es d'accord ou pas?
Oui, alors je te laisse terminer parce que il y a dans
et
tout
donc, ce qui. Ouais. Donc, je dis ça pour dire que tu le veuilles ou pas, si tu n'es pas britannique, ta fantaisie ne sera pas une fantaisie britannique.
Ah non, on est d'accord.
On est d'accord. Forcément, ce qui sortira de toi, c'est ton expérience. Ta vision du monde, ta perception, ton contexte. Donc tu l'inscris tout simplement.
C'est ça.
Par rapport à ce que tu disais sur le métissage, c'est quelque chose qui est très important, sincèrement. Parce que moi, ça me fait penser au mot de Damas. Gontran Damas, il disait, sous la terre des parias, un premier homme vint, sous la terre des parias, un deuxième homme vint, sous la terre des parias, un troisième homme vint, et depuis trois fleuves coulent dans mes veines. Mais si on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, pour l'auteur est métissé. Même sans l'être racialement. Il est métissé parce qu'il a son travail, il est métissé parce qu'il a ses connaissances, ses voyages, et tous ces métissages-là vont faire son univers à un moment donné, auquel il va se référer pour pouvoir pondre son œuvre. Pondre, c'est peut-être pas le bon terme, mais... Et tu vois, je découvre ton livre et je vais le prendre. Enfin, on verra après pour les... je vais le prendre, mais... Tu as parlé d'un auteur d'Heroic Fantasy. Moi, je connais Cédric Centime qui écrit aussi de l'Heroic Fantasy. Et ça, je ne le savais pas, tu vois. Oui, il écrit de l'Heroic Fantasy. Et je pense que ce livre-là lui plaira. Et donc, à partir de là, c'est important que, quand on parle d'authenticité, ben, qu'on ait l'authenticité de la richesse de ce qu'on est.
Et qu'on l'exprime.
Tu sais, la bougie sur la tombe, moi, j'arrête pas de voir des symboliques partout, là, tu vois. J'arrête pas de voir des symboliques parce que tu disais, j'ai peur de m'exposer. Enfin, je synthétise peut-être mal. Hein. J'ai pas envie de m'exposer, je suis dans l'ombre. Ben, c'est comme si la tombe ou le mort te disait, moi, je ne peux plus le faire, mais toi, tu peux encore. Je veux dire, allume ce que tu es et fais ce que tu as à faire.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et moi, en même temps, quand j'entendais Iliac parler de métissage, j'ai été renvoyé à la réalité. Il y a plein de choses. Et en même temps, j'attendais de voir où tu allais avec ce que tu disais pour savoir comment réagir. Mais en fait, ce que tu disais, c'était tout simplement toi, comment tu te positionnes dans ta littérature par rapport à ta réalité que tu voudrais partager. Mm-hmm. Et ça, c'est au niveau... C'est simple, quoi. Mm. C'est personnel.
Très vrai.
Parce que moi, j'ai un problème avec le métissage. Mmh.
Politique.
Le métissage comme sujet important. Mon fils est métisse, donc je n'ai pas un problème avec une métisse. Mais aux États-Unis, être métisse, c'est être noir.
Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gradations de teint, etc. Mais on s'en fout. Tu as une goutte de sang noir, tu es noir. Il n'y a pas de problème. Ici, une goutte de sang noir, ça ne suffit pas à être noir. On ne se voit tout sauf noir. Pour moi, ça, c'est un problème. Mmh. On en fait quelque chose de politique pour cacher... Parce qu'il y a toujours eu des métisses. Partout où les peuples se joignent, il y aura des les gens vont coucher ensemble, les gens vont s'aimer, les gens vont procréer. Moi, le premier. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Et on en fait quelque chose de politique et en littérature, on en fait quelque chose d'exclusif. C'est-à-dire qu'on exclut.
Ouais.
À travers la créolité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise un certain vocabulaire, il faut qu'on parle de certaines thématiques. Et ça, je dis non. Moi, je veux la paix. Moi, je suis un mélange aussi d'Africains et de Guadeloupéens. Je suis Américain, je suis Africain, je suis Américain. Américain, Guadeloupéen, Africain. Toutes ces choses-là, c'est moi. Mais en fin de compte, ça n'a aucune importance. Parce que ce qui est important, c'est ce que je veux, ce que je fais.
Et comment je
suis avec les gens autour de
moi. Comment moi je me connais.
Et donc je vais essentialiser la différence. Tu vois ce que je veux dire? Je vais simplement la vivre pleinement.
C'est ça.
Et ce qui me pose problème en littérature, c'est quand les gens veulent faire tout un plat du métissage, ou du fait qu'ils sont noirs.
L'identité un petit peu.
On s'en fout. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on
a. Ouais, de peur que ça leur serve de bagage promotionnel.
Bon, là, tu vois, ils vont me détester, mais ça se fout.
Non, parce que, parce qu'en fait, il faut poser cette réflexion-là aussi, parce qu'on a parlé de le fait d'être soi, mais être soi, c'est être métisse. Moi, en revanche, j'ai des Indiens dans ma famille, d'accord? Donc, je suis noir. D'accord? Donc je suis métisse parce que j'ai des Indiens dans ma famille. Quand on me présente un plat de Colombo, je ne dis pas je ne mange pas parce que je suis noir. Donc à partir des ressources que j'ai à l'intérieur de moi, je dois tout utiliser pour vivre ma vie.
Pour moi, il faut être ouvert.
Voilà.
Il faut être ouvert à la différence.
De toute façon, si on s'ouvre pas, si on n'apprend pas, si on ne cherche pas à connaître, le bagage culturel sera tellement étriqué, qu'on sera incapable de produire quoi que ce soit, sauf de parler de soi-même et de tourner autour de son nombril.
C'est ça.
Plus le bagage culturel est important, plus on s'intéresse aux autres et plus
on a des choses
plus on grandit en fait.
Et plus on est conquérant aussi. Ouais.
Donc en fait, moi je suis pas contre, je dis pas ça, ce essentialisme. Le fait de diriger une différence en quelque chose de si important, alors qu'en fait c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est qui tu es en termes de ton humanité.
C'est ça.
Et c'est ça qu'on est là en tant qu'écrivain pour mettre en avant. Des expériences humaines auxquelles les gens pourront s'identifier. Parce qu'en fait, on peut croire qu'on écrit pour la Guadeloupe. Mais je vous garantis que c'est pas vous qui décidez qui va s'identifier. Et puis, moi, je pensais que j'écrivais pour mon peuple. Jusqu'au jour où il y a des auteurs français qui m'ont contacté. Et c'est eux qui ont trouvé du beau dans ce que je faisais. C'est eux qui m'ont donné confiance en moi. Mais c'est pas pour eux que j'écrivais. Mmh. En fait, c'est pas moi qui décide. C'est eux qui décident, les lecteurs. Qu'est-ce que vous pensez que
J'allais poser la question quand tu disais ça. Est-ce que quand tu écris, quand vous écrivez, est-ce que vous vous dites, j'écris pour tel et tel lecteur?
Pour moi, c'est un piège de dire ça. Moi, j'écris déjà pour me faire plaisir. Déjà, pour commencer, j'écris, ne me fait pas rire, ne me plaît pas, je vois pas comment ça va faire pour plaire à quelqu'un d'autre. Déjà, pour commencer. Ensuite, comme disait Michel, on ne peut pas mesurer la portée du public qu'on touchera. Je connais beaucoup de chanteurs qui se sont lancés, on parle de chansons, mais c'est dans leur créatif, qui se sont lancés en disant « je veux faire Broadway » et finalement, ils plaisaient aux adolescentes. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc à partir de là, on est là pour créer. Et ensuite, c'est comme un enfant, le livre, à partir du moment où il est terminé, il a sa vie à vivre.
Ah, ça c'est clair.
Tu vois, c'est
un petit coup de pouce, mais en gros, il va nous amener, il va faire ce qu'il veut.
Il va faire ce qu'il a à faire, il plaira à qui devra plaire. C'est on décide de rien.
Et il dira, moi j'ai écrit un bouquin, et j'étais surpris d'entendre les gens parler du bouquin, et se l'approprier. Et en fait, je me suis rendu compte que vous écrivez, mais vous n'êtes pas responsable, et vous ne pouvez pas contrôler l'interprétation du public.
C'est ça.
Et ils en font ce qu'ils veulent, et je ne peux pas...
À un moment donné, une fois qu'on a fini de se faire plaisir en l'écrivant, c'est un peu à eux.
Oui, c'est à eux de voir ce qu'ils en font.
Et quand on sera plus là, ce sera à eux toujours. Hein.
Et souvent, ils aimeront des passages qui ne seront pas nos passages préférés.
Exactement.
C'est ça qui est
dans ce personnage.
Alors, on a parlé de l'édition tout à l'heure.
Oui.
L'auto-édition et l'édition traditionnelle. Moi, je préfère l'expression édition indépendante.
Auto-édition.
Pour moi, parler d'édition indépendante, c'est reconnaître qu'on est professionnel. Et dans la mesure où on est professionnel, j'accepte de parler d'édition indépendante. Il y a des gens qui s'auto-éditent et qui font du n'importe quoi.
Ouais.
Et ils nuisent à ceux qui sont sérieux dans la production du livre.
Quand tu dis n'importe quoi, ça se réfère à quoi ?
N'importe quoi, c'est se précipiter pour avoir un livre publié le plus vite possible, pas prendre la peine de se faire corriger, pas prendre la peine de demander d'analyse littéraire. Bon, ça coûte cher, donc je peux comprendre. Au minimum, se faire corriger, au minimum, demander à quelqu'un de vérifier nos couvertures, que tout est conforme aux exigences de la profession, tu vois, et produire quelque chose, et respecter les lecteurs, surtout.
C'est ça.
Ne pas c'est demander aux gens d'acheter, de dépenser leur argent, de leur donner un truc qui est pour et faute. Il y a plus de 3
c'est
fois.
Sûr.
Il y a plus. Tu ne peux pas faire ça. C'est aucun respect pour tes lecteurs. Et ne pas prendre la peine de s'impliquer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu vois on doit. Parce que ce truc-là, il va rester et ton nom est dessus. Donc tu veux au minimum pouvoir dire c'est le mieux que j'ai pu faire à ce moment-là de ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais. Et dans cette mesure-là, je dirais, ouais, indépendant. Mais on ne peut pas, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, tu as parlé d'Amazon.
Ouais.
Moi, je remercie Amazon parce que sans Amazon, les gens n'auraient pas pu s'exprimer.
Oui, ils ont ouvert une grande porte.
On est d'accord.
Mm-hmm.
Et donc, parce que les éditeurs traditionnels, eux, c'était les chiens de garde, en fait. Enfin, là, tu vois comment je m'enfonce, là.
Oui, je suis en train de t'enfoncer d'ailleurs à ce propos.
Bah, en étant nouveau, on va dire, dans ce milieu-là, moi, ce que j'ai ressenti au niveau des maisons d'édition, c'est que avant, bon, le livre a une grande place.
Ouais.
On vend des livres, on lit des livres. Maintenant, c'est compliqué de trouver un ado ou un jeune adulte qui lit un bouquin.
Ah
ouais, ça devient compliqué.
Pourtant, celui qui lit le plus.
Manga, ouais, peut-être. Des mangas. Oui.
Voilà. Bon, ça reste. Et non, ça reste de la lecture. Mais... C'est vrai, elle lit. Qu'est-ce qu'elle lit?
Un livre qui s'appelle La
Révolte
du Dragon.
Oh. Mais pour le coup, c'est devenu cher. C'est devenu difficile d'accès, c'est ça. La matière première a augmenté, la communication, c'est devenu compliqué, les promotions sont devenues compliquées. Donc j'ai l'impression que maintenant, les maisons d'édition, bon, j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres de je ne sais qui, mais en gros, bah, si je ne suis pas sûr de gagner des ronds, je ne vais pas miser sur toi. Avant, c'était un pari. On jouait sur un pari, on se disait, bon, allez, on va tenter le coup, j'aime ce que tu as écrit. On tente le coup.
Ouais.
Maintenant, c'est j'aime ce que tu as écrit, mais il me faudrait des statistiques d'abord pour savoir si je vais rentrer dans mes clous.
Non, mais ça je peux comprendre parce que l'éditeur, c'est un
très compliqué maintenant pour les nouveaux auteurs.
Oui, mais.
C'est ça, moi, qui me.
Mais en même temps, on a le choix. Je lisais un article il n'y a pas longtemps dans lequel il montrait l'évolution de l'édition aux États-Unis. C'est un super grand marché. Et récemment, j'ai décidé de m'orienter vers ce marché-là pour les 4 livres en entrée. Et les ventes de bouquins produits par des indépendants, des gens qui ne passent plus par l'édition traditionnelle, parce que c'est un peu plus compliqué qu'en France dans le sens où il faut absolument avoir un agent, et l'agent prend le pourcentage de nos gains. Donc les gens s'éditent eux-mêmes, même s'ils ont été édités au préalable par des éditions, ils ont tendance à s'éditer eux-mêmes. Ils sont à 55%. La plupart des ventes sont des ventes en auto-édition. 55% des ventes sont en auto-édition. C'est-à-dire que les éditeurs traditionnels sont en récession. Ils sont en train de se battre pour regagner leur part du marché. Parce que quand tu professionnalises ton écriture et que tu comprends ce qui fait que ton histoire intéresse, tu produis quelque chose. Et si tu connais beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui t'as un public, t'as une audience importante, ben tu peux t'en sortir. Les gens qui vendent des bouquins à 99 euros. Ça arrive.
Comme on disait,
là, ici, en France et en Guadeloupe, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur l'édition?
C'est comme tu disais, c'est vrai que cette précipitation, moi aussi, me dérange parce qu'on veut absolument tout de suite avoir le produit.
Oui.
Ça y est, je l'ai, regarde, je suis auteur parce que j'ai publié un livre, parce que j'ai mon bouquin, je suis auteur. Bon. Moi, j'écris d'abord une histoire avant de me considérer comme un auteur, parce que pour moi, c'est pas encore le cas. Ouais, mais pour moi, j'ai écrit une histoire. Je sais pas si je suis auteur. On verra avec nos auditeurs et ceux qui liront le livre. C'est eux qui choisiront, à mon avis. Mais cette précipitation, oui, effectivement, elle me pose problème. On a besoin de ce Saint Graal.
Tu es auteur déjà, d'accord.
Ouais, mais est-ce que légalement, c'est ce que moi je suis vraiment moi, je me considère vraiment.
Intégré, ça.
Ouais,
c'est ça.
Mais l'auto-édition, comme on disait, ça, voilà, on a des portes qui ont été ouvertes. Maintenant, c'est faisable. Tant qu'on ne se précipite pas, qu'on fait les choses bien, qu'on réfléchit à comment le faire, à pour qui on le fait. Ouais. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour la reconnaissance? Ou est-ce que je le fais pour mes lecteurs? À un moment donné, bon bah.
La motivation,
voilà, on fait des choix et puis on n'aura pas peur du boulot. Il y a du boulot derrière. Entre ce qu'on disait, hein, parce que là, si on regarde par exemple sur celui que j'ai fait, entre le dessin, l'ancrage, la colorisation, les textes, les intros, la mise en page, c'est énormément de travail. Mais c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire parce que tout est accessible maintenant.
Moi, je pense pas que tout le monde.
Ouais.
Celui qui veut travailler, oui.
Avant, je pensais ça.
Ouais.
Tu veux dire, technologiquement, on a la possibilité
Avant, je pensais ça jusqu'à ce qu'on fasse le séminaire d'écriture.
Les ateliers. Oui.
Parce qu'au départ, il y a plein de gens. Ils veulent tous écrire.
Oui.
Et quand ils se rendent compte que c'est du boulot, il faut réfléchir. Écrire, c'est réfléchir sur papier. Mais il y a moins de monde, parce que ça prend du temps.
C'est ça.
Un sacrifice de temps, d'argent, Le temps que je passe avec eux, c'est le temps que je passe pas à gagner de l'argent.
Ben oui, c'est chronophage.
Et une fois que c'est terminé, il faut payer pour se faire corriger. Il faut payer pour les couvertures. Il faut payer pour l'imprimer. Il faut payer pour. Il faut payer. Et donc, ça, tu vois, ça fait le vide là. Mais je suis d'accord avec toi. À la base, c'est accessible à tout le monde. Mais il faut vraiment le vouloir.
Oui, ben c'est...
Il faut vraiment le vouloir.
Vous me direz après comment vous avez fait, on va dire en gestion de temps, grosso modo, quand vous vous mettez à produire. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ce livre-là, quand il a été écrit, j'étais restaurateur. J'étais restaurateur ambulant. Donc j'avais récupéré l'affaire que tenait mon père. Et des services très longs. Donc c'est des journées de 14 heures d'affilée.
Wow.
Et entre la mise en place, la cuisine, la plonge, de tout ranger, de prendre du temps pour chaque client, pour satisfaire tout le monde, parce que quand on est professionnel, on le fait à fond. Mais à quel moment j'écris ?
T'as écrit 491 pages en travaillant 14 heures par jour.
Ouais, ouais. Et en fait, encore une fois, il y avait madame derrière. Madame m'autorisait, me permettait, c'est pas qu'elle m'autorisait, elle me permettait. 1 à 2 heures par jour entre deux services pour pouvoir écrire. Et c'est ce que je disais, c'est que même si on arrive à faire 2-3 lignes, on a fait 2-3 lignes. Et pendant 2 heures, 1 heure, je m'asseyais à une table, je sortais l'ordi et je tapais.
Moi j'ai une théorie, mais je vais laisser les autres s'exprimer avant de la partager.
L'édition, alors je commençais par répondre à ta question, Eliac. Je pense que quand on est passionné, je le dis sincèrement, on fait des choix. C'est-à-dire qu'au moment bout d'un certain moment, si la passion c'est d'écrire, on trouvera le temps.
On va faire le temps.
C'est-à-dire que c'est comme fréquenter des amis. Certains vont dire j'ai pas le temps. Non, tu n'es pas dans mes priorités. Ça veut dire que tu choisis de ne pas me choisir. Mais le livre, c'est pareil. À partir du moment où on veut arriver au bout de son projet, que ce qu'il nous porte, qui nous enflamme, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire.
Oui.
Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent écrire. Rêver, c'est de se dire oui, j'aimerais être écrivain. Mais vouloir, c'est passer par tous les processus, y compris des processus qui sont chronophages pour le faire.
De transformation personnelle.
C'est ça.
Écrire te change.
Et nous, on est sur. Je n'aurai jamais l'arrogance de parler au nom des Guadeloupéens. D'accord ? Parce que déjà, ils ne m'ont pas donné mandat pour ça. Mais on est, je pense, une partie d'entre nous, c'est un peuple d'entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire que ce soit dans la restauration, que ce soit dans tout ce qu'on fait, la radio, etc., on est des entrepreneurs. L'édition indépendante, c'est toujours plaisant qu'il y ait, par exemple, un éditeur classique qui choisisse ton livre. Il y a un processus d'élection, tu te dis...
C'est valorisant.
Après, ça a un coût économique.
Ouais.
Il y a l'expression qui dit « il y a la cerise sur le gâteau », mais l'édition classique, c'est la cerise sans le gâteau. Ouais, parce qu'au bout d'un certain temps, sur 20 euros de livre, tu vas toucher 1,30 euros, par exemple. Ça veut dire que tu t'es dit « j'ai planché, j'ai écrit, j'ai transpiré, j'ai créé mon monde. »
Et
l'Yosef Tata, et j'ai 1,30 euros sur 20 euros. Après, on va t'expliquer tous les mécanismes, il n'y a pas de souci. L'édition indépendante te donne la possibilité, parce que j'entends beaucoup des discours d'autonomie, mais l'autonomie, on commence déjà par soi-même. Oui. C'est-à-dire se dire, j'ai un talent, j'aimerais, à défaut d'en vivre, mais j'aimerais au moins avoir quelque chose de ce talent. Et l'édition indépendante te donne la possibilité, je ne ferme pas la porte à l'édition classique, mais elle te donne la possibilité de te dire, sur le fruit de mon labeur, j'aurai au moins à minima peut-être 50%. Merci. Et c'est plus digne. Tu vois, et c'est ça qui est important aussi. En revanche, en effet, il va falloir travailler, il va falloir faire des maquettes, il va falloir apprendre des techniques, il va falloir, pour le vieux nec de tu m'as quand 21h26, 31 décembre, on y était. Moi j'avais une migraine côté gauche parce que c'était difficile. Ah oui, 21h26, j'avais une migraine côté gauche parce qu'on avait passé la journée, il faut calibrer, il faut paramétrer, il faut. Mais je suis sorti là, je dis bon, l'année 2024, le vieux nec est sorti.
Pour moi, moi je ne vois pas le temps parce que c'est un truc, je suis passionné par ça. Mais moi, ma théorie, la voici. Parce que moi, depuis que j'ai plus de temps, j'écris plus. Moi, ce qui m'a aidé à écrire, c'est la pression.
Ouais.
Ce qui m'a aidé à écrire, c'est le fait de ne pas avoir de temps. Parce que j'ai un travail, j'ai un job à respecter, je suis limité. Et quand j'avais un collègue qui rêvait d'écrire, mais celui c'était pour Hollywood, des scripts, eh ben, j'étais son responsable et je lui ai dit, ok, à l'heure du repas, prends 30 minutes de plus, va dans ta voiture et écris, prends une heure pour écrire. Et lui, c'est ça qu'il faisait tous les jours. C'était ma façon de l'aider à produire son script. Et moi, au moment que j'avais, j'avais toujours un carnet avec moi. J'ai 5 minutes de pause, j'écris 2 phrases, 3 phrases. J'ai plus, je fais plus. Mais toutes les petites... Quand je suis au WC, j'écris une phrase. Si j'ai mon téléphone, un truc, je l'enregistre. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons. Tous les petits moments que tu as, tu les utilises pour faire avancer ton histoire. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps.
C'est ça.
Et quand tu es dans cette situation-là, tu es beaucoup plus efficace que les gens qui ont tout le temps du monde. Parce qu'en général, ils le gaspillent.
C'est ça.
Ils sont pas disciplinés.
T'as l'impression pour toi.
Parfois, avoir le choix fait que tu ne sais pas quoi choisir.
Oui, ouais.
Parfois, quand t'as pas le choix, tu fais ce que t'as à faire. Moi, c'est ma théorie.
C'est vrai.
Et je sais que moi, c'est comme ça que je suis productif. Mais tant que j'ai tout le temps que je veux, j'arrive pas à produire. Tu vois, j'arrive pas à produire autant.
Il y a la dimension de pression est importante aussi. Il y a la pression qu'on peut se mettre, mais il y a la pression aussi parce que ça dépend de notre psychologie. Il y a des gens qui ont une dimension de stress pour se dépasser.
Oui.
Il y a des gens qui ont besoin de tranquillité, d'autres ont besoin de stress. Tout le monde a certainement eu un devoir à remettre à l'école et a attendu la dernière minute du dernier jour
où il n'y a pas le choix
pour en faire parce qu'il n'y avait pas le choix, il était dos au mur. Donc à partir de là, tu as cette pression qui est positive.
Oui.
On a des. C'est la raison pour laquelle il est important de se connaître. Il y a des personnes qui ont besoin de planifier en amont. Moi, j'ai besoin de pression. Si j'ai pas de pression, je sens pas l'adrénaline, je ne sens
c'est
pas
vrai.
L'envie de dépassement.
Et comment tu t'es mis cette pression-là?
Alors, déjà, mon parcours sportif m'a aidé parce qu'en fait, quand tu es sportif, tu joues ta carrière à chaque match. Que t'es pas bon, t'es sur le banc. Si t'es sur le banc, on te voit pas. Si l'année d'après, tu pointes au chômage. C'est ça la carrière de football.
Wow.
C'est exactement ça. Et je me suis rendu compte, en fait, dans mon processus créatif, que j'avais besoin de ça. On me dit, c'est dans 6 mois. Pff, ça ne m'intéresse pas. Mais quand les 2 jours arrivent, je sens toute la pression monter, l'éveil du feu.
Galvanisé.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux quand on est heureux et que tout va bien.
Non, ça ne veut pas dire ça. Chacun a son mode opératoire.
Son déclencheur. Mais pour retourner à l'édition, moi je suis ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire que je fais les deux. Et je crois que pour mon prochain livre, je chercherai une maison d'édition. J'exercerai davantage le patient. Je ne suis pas très patient. Et donc l'année dernière, j'ai soumis, il y a une plateforme où tous les éditeurs, beaucoup d'éditeurs se sont rassemblés, il y en a à peu près 200. Et j'ai soumis ce livre-là sur cette plateforme-là, et ils te disent dans 3 mois, tu auras une réponse. Je me suis discipliné pour attendre, pour être patient. Et au bout de 3 mois, il n'y a pas de réponse. Je me suis dit, ok, je fais mon truc en indépendant. Et le 4e mois, je reçois une offre. D'un éditeur.
Trop tard.
Et je lui dis, vous savez, j'ai déjà édité mon livre. Et là, il m'a dit, ah, dommage. Cet éditeur-là, j'avais déjà édité mon livre, mais il voulait tellement. Il m'a relancé et j'ai dépublié le livre et il l'a publié. Mais celui-là, sur ce coup-là, j'ai raté le coach. Mais pour moi, il est important d'être édité de façon traditionnelle. Mais il est important aussi d'être édité
de façon traditionnelle.
Je vais vous dire pourquoi. À votre avis, pourquoi? Alors que je dis. Quand on est édité de façon traditionnelle, les snobs, et il y en a beaucoup, ceux qui ne jurent que par ce que les autres disent, et par ce qui est officiel et ce qui est machin, ils respectent. Oh, il n'y a qu'à être édité par une maison d'édition. Ah, ça doit être bon alors.
Là, c'est plus la maison d'édition qui fait le
coach. Oui, voilà, c'est ça.
Qui fait le coach.
C'est la caution.
La peine de voir par eux-mêmes. Moi, je veux toujours vous savoir, quel que soit, je m'en fous. Auto-édité.
Pour voir le contenu.
Au 19e siècle, au 18e siècle, il n'y avait pas d'éditeur. Ça a commencé à la fin du 19e siècle, je crois. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, Shakespeare était auto-édité. D'accord. Shakespeare était auto-édité. Donc, c'est-à-dire que la valeur n'a rien à voir avec les apparats, elle a tout à voir avec le contenu. Donc je veux savoir, je vais lire. Mais c'est pas comme ça que la plupart des gens sont. La plupart des gens, c'est le matubu, c'est le paraître, c'est ce qui est associé à. Et donc c'est important, pour qu'on te foute la paix, qu'on arrête de douter de toi, d'avoir ce label-là.
Oui, à un moment donné.
Pour qu'ils ferment leur gueule. D'accord. Mais